Bonjour Madame Chantal Gomez.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation pour notre cycle d'entretien politique CLIC pour 2014. Nous souhaitons pouvoir interroger l'ensemble des candidats pour les européennes en 2014. Alors Madame Chantal Gomez, vous êtes tête de liste Lutte ouvrière pour la région Sud-Est.
Voilà, une grande région qui va couvrir Rhône-Alpes, Provence, Alpes, Côte d'Azur et la Corse.
Alors, première question, pourquoi Lutte ouvrière se présente à ces élections? Quel est l'intérêt pour Lutte ouvrière de se présenter aux élections européennes?
Dès que nous pouvons, nous nous présentons à toutes les élections, parce que, bon, on sait bien que ce n'est pas les élections qui peuvent changer les choses, mais en tout cas, on peut faire entendre une voix, et là, on l'a déjà fait entendre dans les dernières municipales, mais nous voulons faire entendre une opposition ouvrière à ce gouvernement, faire entendre le camp des travailleurs, c'est l'intitulé de notre liste, et faire entendre une opposition ouvrière à ce gouvernement qui est entièrement à la solde du grand patronat, des financiers, des banquiers, bon, on l'a vu, et puis aussi faire entendre une opposition à la droite et l'extrême droite. Donc c'est vraiment une position très claire du côté des ouvriers. Et aujourd'hui, ben malheureusement, la classe ouvrière, elle se fait pas beaucoup entendre. Les travailleurs, on les entend pas. On entend surtout la droite et l'extrême droite. Et il faut pas leur laisser le monopole de l'opposition. Voilà.
Alors, pour vous, quelle est votre vision de l'Europe? Quelle est la vision de Lutte ouvrière de l'Europe?
Ben nous, vous savez, on défend l'Europe des travailleurs. Hein, et le programme qu'on a défendu pour les municipales, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, bien sûr, mais ce programme-là, il s'applique à tous les travailleurs d'Europe. Par-delà les frontières, on pense que la classe ouvrière, elle est la même, elle forme un seul bloc et qu'il faudra que les travailleurs se défendent, appliquent le programme qu'on défend, enfin défendent ce programme vraiment... des objectifs pour la classe ouvrière, des objectifs vitaux face à la rapacité aujourd'hui du grand patronat et puis de tous les États qui finalement sont à leur botte. Hein, parce que vous voyez, les politiques d'austérité, elles sont menées d'un bout à l'autre de l'Europe. On fait payer au peuple la dette des États, mais des États qui sont entièrement au service des grands capitalistes. Parce que leur propre crise, ils la font payer au peuple, alors qu'eux, on le voit, des milliards, il y en a. Les grandes entreprises, elles savent plus quoi faire, elles s'achètent, elles se revendent, comme aujourd'hui avec Alstom. Donc nous, dans ces élections, on défend des objectifs pour les travailleurs, parce qu'on est persuadé qu'un jour ou l'autre, la colère, elle va arriver, et que les travailleurs, ils vont vouloir se défendre, ils vont se défendre, et ça, c'est vital, parce qu'il n'y a que la lutte des travailleurs qui change les choses. On l'a déjà vu maintes fois dans l'histoire. Hein. Si on attend après les élections, on voit bien le gouvernement de droite, de gauche, ils se suivent, ils se ressemblent, et finalement, la politique, elle reste la même, et on continue à payer pour les profits et les intérêts de la bourgeoisie, qu'elle soit française, allemande, italienne ou tchèque. Hein. Voilà.
Alors justement, en Allemagne, les travailleurs n'ont pas le droit de grève.
Ah, je pense pas.
Non. Si, ils n'ont pas.
Non, les travailleurs, ils ont le droit de grève. Je sais pas dans la fonction publique, peut-être. Mais de toute façon, le droit, quand on est en colère, vous savez, le droit, on le prend. Hein. Et puis le droit, c'est les travailleurs qui l'ont fait. Donc partout, on l'a vu, par exemple, dans les grands mouvements, comme en mai 68 ou en juin 36, les mouvements, ils ont dépassé largement les frontières de la France. Hein. Il y avait des grèves partout. Et nous, on espère qu'un jour, les travailleurs, ils redresseront la tête. Parce qu'aujourd'hui, ils la baissent, ils n'ont plus confiance en leurs propres forces, ou ils s'abstiennent, par exemple, dans ces élections. Alors, c'est vrai qu'elles ne changent pas les choses, mais c'est l'occasion de dire qu'on est en colère, c'est l'occasion de montrer qu'il y a une opposition ouvrière à ce gouvernement et à ce patronat qui s'en met plein les poches et qui en veut toujours plus. Et il y aura l'occasion de voter pour nos listes aux européennes, pour les listes menées par les candidats Lutte ouvrière.
Et pour rebondir sur cela, est-ce que Lutte ouvrière a des contacts avec d'autres partis politiques européens d'extrême-gauche ou avec d'autres syndicats
Eh bien, oui, on a des contacts. Alors, ce n'est pas, bien sûr, le grand parti international qu'on voudrait, ou l'international. Vous savez que c'est les 150 ans, c'est l'anniversaire cette année de la première internationale. Mais notre fête, d'ailleurs, est un rassemblement où il y a beaucoup d'autres groupes invités qui viennent d'Europe et même d'ailleurs des États-Unis, au-delà des frontières.
Et vous êtes optimiste sur une nouvelle internationale d'extrême-gauche?
En tout cas, c'est ce qu'il faudrait. Optimiste, oui, on l'est, puisque nous, on continue à se battre. Puis on a surtout confiance dans la classe ouvrière. Et on sait que c'est elle qui est porteuse du changement, de l'avenir. On reste optimiste parce que forcément, de toute façon, le capitalisme, il emmènera à des luttes. Parce qu'avec ce qu'il fait aujourd'hui, ce que font les gouvernements, quand vous voyez le dernier gouvernement en valse un gouvernement de combat, comme il s'intitule, mais de combat entièrement contre les travailleurs, hein, en fait. Il va ponctionner les classes populaires, les petits retraités, les travailleurs, les chômeurs. Tout ça pour continuer à donner des milliards aux grands patrons qui savent plus quoi faire de leur argent. Regardez, vous avez l'exemple d'Alstom en ce moment, hein, une grande entreprise d'abord qui a licencié, hein, même avec la participation de l'État ou pas dans son capital, mais qui a licencié et qui aujourd'hui va être rachetée peut-être par General Electric ou Siemens, qui sont des groupes aussi pareils qui ont licencié mais qui savent plus quoi faire de leur argent. À Grenoble, Siemens, ils ont fermé une entreprise. Dans la région de Saint-Étienne, même chose. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils ont des milliards pour acheter un groupe comme Alstom. Donc ça montre que de l'argent, il y en a et qu'il faudra que les travailleurs, ils imposent à travers leur lutte des objectifs, à commencer par ce qu'on a déjà développé dans les municipales. Ces objectifs, c'est l'interdiction des licenciements. Et partout où ils essaient tous de trouver des solutions, vous comprenez. Le gouvernement, il défend des solutions nationalistes. On a des cocoricos de Montebourg. Voilà, c'est tout ce qu'il fait. Mais en attendant, la première des choses, ça serait d'arrêter l'hémorragie des licenciements. Donc stopper les licenciements, interdire les licenciements et répartir du travail entre tous. Parce que du travail, il y en a. Il y a des gens qui se tuent au boulot. Il y en a d'autres qui n'en ont pas, qui en cherchent. Donc il faut répartir le travail entre tous. Commencer déjà par ça, c'est vraiment une mesure de salut public. Et puis il y a de l'argent aussi pour augmenter les salaires, pour augmenter les petites pensions. Et puis les indexer aussi sur les prix. Parce que vous voyez que quand les prix augmentent, le peu d'augmentation. Et puis là, en plus, ils veulent bloquer les pensions et tout ça avec les 50 milliards qu'ils veulent nous faire payer, là, le dernier plan de Valls, ça c'est un scandale. Et puis surtout, ce qu'on défend aussi, c'est le contrôle de ces grandes entreprises par les travailleurs eux-mêmes, par la population, par les associations, et qu'on leur rende un peu ces comptes transparents. Parce que quand vous voyez Alstom qui nous dit qu'il a des difficultés, mais qui est allé voir les comptes d'Alstom? Où est-ce qu'on a vu qui, même pas l'État, personne. Donc il y a le secret bancaire et commercial, il y a le secret des affaires. Même les salariés n'étaient même pas au courant, ils l'ont su par la presse, parce que, alors que les syndicalistes avaient posé des questions, ils ont su par la presse que Alstom allait chercher à des accords avec General Electric. Bon, alors il y a ce contrôle qu'il faudra imposer sur ces grandes entreprises qui font la pluie et le beau temps. Et puis quand je parle aussi, je reviens juste un peu en arrière, mais quand je parle d'interdiction des licenciements, c'est y compris chez les sous-traitants, y compris dans toutes les petites entreprises qui travaillent pour ces grands groupes, parce que la plupart des petites entreprises sont dépendantes de ces groupes. Donc on verrait que de l'argent, il y en a justement. Il faut contrôler, il faut que les travailleurs un jour contrôlent ces grandes entreprises qui font la pluie et le beau temps. Il faut le contrôler leurs comptes, qu'on voit ce qu'ils font de l'argent, qui sont les actionnaires, où vont leurs profits, qu'est-ce qu'ils en font. Donc ça c'est vital, on le défend aussi dans des objectifs, parce que si demain il y a des luttes, il ne faut pas qu'on se fasse avoir à nouveau, il faut qu'on mette vraiment en avant des objectifs.
Alors, on comprend votre critique du gouvernement Valls, mais que critiquez-vous dans les institutions européennes? Parce que, est-ce qu'elles peuvent agir sur les problèmes dont vous venez de nous parler?
Écoutez, moi, je crois pas. Ces institutions européennes, elles sont des institutions au service du capital, au service de la grande bourgeoisie européenne, comme le sont les institutions du pays. Hein, voilà, on le voit bien. Le Parlement européen, en fin de compte, il sert pas à grand-chose. Il a pas grand pouvoir, pas plus que le Parlement, d'ailleurs, français. Vous voyez bien. Vous voyez que même l'État, je reviens sur l'affaire d'Alstom, mais l'État n'était même pas au courant. Hein. Bon, ça se pourrait, parce que vous savez, ces grands groupes, finalement, ils décident et l'État exécute. Et ils ont pour ça des tas de politiciens, des marionnettes qui exécutent leurs ordres. Alors, les institutions, elles sont au service du grand capital. Et il faut que les travailleurs, au-delà des frontières, eh ben, ils imposent leurs propres objectifs par leur propre lutte.
Et comment expliquez-vous la perte d'intérêt pour l'Europe de la part des travailleurs?
Perte d'intérêt, c'est-à-dire que, bon, ils voient que de toute façon, il y a une perte d'intérêt surtout pour les élections, parce qu'ils voient bien que tous les gouvernements qui se succèdent, finalement, ils mènent tous la même politique au service des plus riches, au service des financiers, et au niveau de l'Europe, on fait payer au peuple d'Europe la crise du système capitaliste. Alors il y a des tas de politiciens, y compris à gauche, hein, par exemple comme le Front de Gauche, qui nous montre l'Europe comme le principal responsable de nos maux, ou l'Europe, ou alors Madame Merkel avec l'Allemagne et tout ça. Ça, c'est un repli nationaliste que nous, on combat, parce que c'est pas en étant seul dans nos frontières, en étant avec soumis aux exigences de nos propres capitalistes ici en France, qu'on va s'en sortir. Ça, c'est faux. Les cocoricos sur Alstom, depuis longtemps, ce sont des groupes mondialisés partout. Nous, on pense que... Il y a une seule et même classe ouvrière, je le répète, et qu'au-delà des frontières, elle a des objectifs à défendre et qu'il faut qu'il y ait une union des travailleurs. Et puis, comme vous le disiez, peut-être un jour une future internationale. Mais il ne faut pas qu'on se laisse diviser. Il ne faut pas qu'on marche dans les combines, y compris alors là du Front National, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est le pire dans l'histoire. Puisque lui, il veut sortir de l'euro, fermer les frontières. Comme si c'est ça qui allait empêcher les patrons de licencier. Comme si c'est ça qui allait obliger les patrons à augmenter les salaires. Et l'État, pareil. Il y a par exemple plein d'attaques sur le service public. Vous voyez, il va y avoir le 15 mai une manifestation et une grève, une journée de grève dans les services publics. Il y a de quoi. Il faudrait d'ailleurs que cette grève elle s'élargisse aussi à tous les travailleurs du privé. Mais tous les services publics sont attaqués. Finalement, les services publics qui servent aux classes populaires. C'est les services publics qui utilisent le plus les hôpitaux, les transports. C'est la classe ouvrière, je veux dire, qui l'utilise le plus. Donc, on fait payer à la population laborieuse, aux classes populaires, la crise de l'économie capitaliste. Et on voit que eux, ils s'en tirent très bien, les capitalistes, puisqu'il y a de l'argent, ils ne savent plus quoi en faire. Vous avez vu, les inégalités se creusent. C'est encore le titre aujourd'hui des Échos. Partout dans le monde, il y a de plus en plus de riches, il y a de plus en plus de pauvres. Ça, il faut que ça change, parce que ça suffit. Ça suffit, et beaucoup en ont ras-le-bol. Alors, je crois que ces élections... C'est pas ça, bien sûr, qui va changer le sort des travailleurs dans le monde entier et en Europe, mais il faut au moins qu'elle serve à donner son avis, à pas laisser faire, à ne pas s'abstenir, parce que vous savez, s'abstenir, finalement, c'est faire la part belle à la droite et à l'extrême droite, parce qu'il y a des tas de travailleurs qui se sont abstenus aux dernières élections. Ils voulaient condamner la politique de ce gouvernement. Mais en attendant, c'est quand même la droite et l'extrême droite qui en a tiré les glorioles, qu'on a vu à la télé pavaner le soir des élections. Donc ça, il faut vraiment que les travailleurs ils s'expriment. Ils ont le choix. Il va y avoir je ne sais pas combien de listes. Et ceux qui sont en colère, ceux qui pensent comme nous, que de toute façon, aujourd'hui, il y a de plus en plus de riches et qu'on fait la poche aux pauvres, aux travailleurs, à la population, pour payer les intérêts de cette classe parasite... finalement qui met le monde à genoux, ces travailleurs-là, il faut qu'ils votent pour les listes lutte ouvrière, il faut qu'ils s'expriment, il y a le choix, et j'espère qu'ils seront nombreux à le faire.
Mais vous pensez que les institutions européennes peuvent lutter contre le grand capital ? Ont les armes pour lutter contre le grand capital ?
Mais non seulement elles ne lutteront pas contre le grand capital, mais elles ne veulent pas, parce que le système électoral, il est fait en sorte, c'est comme en France, que ceux qui arrivent à la tête de ces institutions, et puis de toute façon, ce n'est pas toutes les institutions qui ont le même pouvoir. C'est sûr que la Commission européenne, avec derrière les États et les présidents des républiques, des différentes républiques qui forment l'Europe, ils ont bien plus de pouvoir que le Parlement européen. Donc voilà, eux, ils appliquent les directives qui servent aux grands groupes capitalistes. Ils sont là dans un monde de concurrence pour faire... pour essayer de s'opposer aux États-Unis, au Japon. Ils essayent de faire une union de brigands, comme on dit, qui marche tant bien que mal, parce qu'ils se disputent quand même entre eux aussi. Mais c'est au détriment des peuples, et les institutions européennes, elles n'y peuvent rien. Et puis, bien souvent, tous ceux qui sont élus là-dedans, ils ne cherchent pas du tout à nuire au grand capital et à la bourgeoisie européenne.
Alors, en parlant de ceux qui sont élus, est-ce que l'absentéisme chronique de certains députés européens ne prête-t-il pas le flanc aux critiques contre l'Europe ?
Je ne sais pas, peut-être, mais enfin, c'est significatif de toute une classe politique qui, finalement, se fait élire. N'y va même pas. Vous avez vu les bancs de l'Assemblée nationale. C'est à moitié vide, donc c'est un manque de respect pour ceux qui les ont élus, c'est évident. Par contre, ils encaissent... je pense les indemnités tous les mois, voilà, ça c'est représentatif de toute cette classe politique qui est au service des plus riches et qui méprise la population.
Sachant que parmi les députés abstentionnistes, Jean-Luc Mélenchon est en bonne place.
J'ai appris ça, oui, lui aussi, voilà. Vous savez, il était déjà au gouvernement, c'est un homme politique qui connaît bien la chanson, Jean-Luc Mélenchon. Il attend son tour pour devenir... Premier ministre d'un gouvernement de gauche. Ils prônent avec le Parti communiste qui a déjà participé à plusieurs gouvernements avec le Parti socialiste. Ils prônent un gouvernement mieux, à gauche. Ils appellent encore au vote. Ils font croire à la population qu'avec un bon vote, on peut s'en sortir. Eh ben non. Ben non, il n'y aura pas de sauveur suprême, comme disent les paroles de l'International. Et il faudra compter que sur nous-mêmes. Il faudra compter sur nos luttes. Et ça, on est les seuls à le dire dans ces élections et depuis un certain temps.
Alors est-ce que la mise sous tutelle des États par la Commission européenne, la Banque centrale européenne et la Cour de justice de l'Union européenne n'était pas justement une des causes profondes de la crise politique de l'Europe ?
Alors la mise sous tutelle des États, c'est ce qu'on veut nous faire croire, encore une fois. On nous fait croire qu'il y a des institutions, qu'il y a la Banque centrale européenne qui impose à la France, qui impose aux États, il n'y a plus de souveraineté des États. Mais non, c'est les États eux-mêmes qui ont choisi ce fonctionnement, parce que c'est le meilleur fonctionnement pour eux, pour servir, encore une fois, les intérêts de la bourgeoisie européenne. Et je sais qu'il y a beaucoup d'économistes, de politiciens, dont Jean-Luc Mélenchon, qui voudraient nous faire croire qu'avec une souveraineté nationale, on pourrait s'en sortir, qu'il faut une indépendance de la France, qu'il faut, là, on a vu tous les cocoricots avec Alstom, mais tout ça, c'est de l'enfumage, c'est un rideau de fumée pour cacher qui sont les véritables responsables aujourd'hui de la crise. Et les véritables responsables de la crise, ils sont là, ils sont dans notre pays, ils sont dans les autres pays aussi à côté. C'est eux qui tirent les ficelles des marionnettes politiques, mais c'est eux qui imposent partout pour maintenir leur taux de profit malgré la crise, qui imposent l'austérité et qui piquent finalement dans les budgets publics, dans les budgets sociaux, pour leurs plus grands intérêts.
Alors la Commission européenne qui concentre en son sein les pouvoirs législatifs et exécutifs, qui négocie des traités de libre-échange dans le plus grand secret, comme c'est le cas pour l'actuel traité transatlantique dont on va parler, et elle met aujourd'hui sous tutelle les budgets nationaux. Donc est-ce que cette institution, elle ne souffre pas d'un manque de démocratie dans son fonctionnement ?
Écoutez, c'est toute la société capitaliste qui souffre d'un manque.
Pas de la société capitaliste.
La Commission européenne, comme le reste, comment voulez-vous ? Regardez, quand les travailleurs apprennent par la presse qu'ils vont être vendus comme des vulgaires marchandises, la démocratie, elle n'est nulle part là-dedans. Hein. C'est une façade démocratique avec des élections une fois tous les 5 ans, avec des hommes politiques qui, une fois élus, font ce qu'ils veulent.
On participe. Bon,
voilà. On participe, nous, pour justement dire que pour défendre ces idées-là, et que, vous savez, les élections, c'est un moment finalement où on s'intéresse un peu plus à la politique et au moins on est invité dans les radios, dans la presse, et où on peut s'exprimer. Ben, on en profite parce que nous, on ne nous voit pas souvent à la télé quand même, hein, ça, il faut le dire. On n'est pas souvent invité sur le plateau de TF1. Donc, puis aussi, on est là toute l'année, vous savez, auprès des travailleurs, devant les entreprises, dans les marchés. Alors ces institutions, ce manque de démocratie, etc., c'est toute la société qui fonctionne comme ça. Voilà.
D'accord. Et on en parlait justement, alors le traité transatlantique de libre-échange, pour rappel, c'est un traité de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis, dont François Hollande souhaite la ratification plus vite, qui a pour but d'éliminer les obstacles réglementaires inutiles au commerce. Alors par exemple, le Conseil constitutionnel et les tribunaux français ne pourront pas se prononcer, par exemple, sur la fracturation hydraulique pour extraire le gaz de schiste. C'est le CIRDI, un tribunal d'arbitrage à Washington, et dépendant de la Banque mondiale, qui sera juge. Alors est-ce que vous êtes favorable à ce traité qui, encore une fois, ruine la souveraineté populaire ?
Bien sûr que non, que je suis pas favorable à ce traité, comme tous les traités qui des États pour finalement pour le marché, pour la finance, pour les capitalistes. Mais c'est pas non plus un traité, c'est pas non plus ça vraiment qui est responsable, parce que ce traité transatlantique, c'est des accords entre l'Europe et les États-Unis, des accords marchands. Il y en a eu des tas de traités de libre-échange. Les capitaux circulent à la vitesse de la lumière maintenant par les ordinateurs dans le monde entier. Ils n'ont pas de frontières. Les hommes, non. Hein. Les hommes, ils ne peuvent pas circuler comme ils veulent sur cette planète. Mais en tout cas, les capitaux, ils circulent. Donc des traités, il y en aura toujours tant qu'il y aura ce système capitaliste. Et bien sûr qu'il faut le dénoncer, mais comme beaucoup de traités, comme les traités européens. Mais je veux dire, nous, on veut recentrer quand même la discussion et montrer qui sont les véritables responsables. Parce que tous ceux qui nous disent, là aussi, comme Jean-Luc Mélenchon qui tape sur ce traité, puis bien d'autres en disant « c'est la souveraineté française qui est en péril, on va nous empêcher de manger les aliments ». Enfin, là, je ne sais plus, j'ai vu sur la... imposer la mauvaise...
Par exemple, du poulet
était aux hormones, je sais pas,
lavé à la javel. Est-ce que vous avez envie de manger ça?
On a eu la viande de cheval, elle était européenne, hein, c'était pas américain, puis il y en aura d'autres. Bon. Et le problème du gaz de schiste, là, vous en parlez, parce que c'est vrai que c'est un problème, qu'il y a des, il y a eu des, d'ailleurs des mobilisations contre l'extraction du gaz de schiste, parce que visiblement, c'est très, très, très polluant. Bon, eh ben, ce décret, il va peut-être le favoriser un peu plus, mais je veux dire, sans décret ou avec décret, ou sans traité, pardon, ou avec traité, ça se fera s'ils ont l'intention de le faire. Et apparemment, là, en ce moment, ils tournent autour du pot. Hein, ils ont envie de faire ce...
Enfin,
le gouvernement, Cécile Duflo, qui était, mais les écolos aussi sont contre, etc. Mais enfin, ils ont avalé bien d'autres couleuvres. Et là, visiblement, il y a Total, il y a les grands groupes puissants de l'énergie qui sont derrière et qui ont envie de passer à cette extraction qui est un risque, c'est sûr, pour les populations, qui est un risque polluant grave, même aujourd'hui. Mais traité ou pas, s'ils ont envie de le faire, ils le feront. Et la seule façon de les en empêcher, c'est encore une fois la mobilisation. Il y a eu des très grosses manifs contre ça, notamment en Ardèche, hein, pas très loin d'ici, où il y a eu une grande mobilisation de la population. Ils ont un peu reculé. Et s'ils reculent ici en France... pour l'instant, c'est parce qu'il y a des mobilisations contre ce procédé qui est très polluant. Alors voilà, on verra. Mais je veux dire, c'est pas ce traité qui va imposer. Parce que si demain Total a envie et si on laisse faire, eh ben, ça se fera quand même sans traité, avec traité ou pas.
Et alors l'exception culturelle française serait la seule épargnée justement par ce traité, ce qui pose la question d'une véritable politique culturelle européenne qui est complètement absente de ces débats sur l'Europe. Enfin, comment justement favoriser une culture européenne, une littérature française, un cinéma allemand face à l'hégémonie, notamment américaine, entre autres.
Bon, alors l'exception culturelle française, c'est quoi? Je sais pas, c'est Jean-Marie Bigard ou TF1 Bon, voilà. Alors, il y a aussi des très bons films américains, des petits films, des petits producteurs. Il y en a dans tous les pays. Et nous, on est très attachés à la culture, c'est évident. Il faut... elle dépend, là aussi, c'est une affaire marchande qui dépend des grands groupes.
Une affaire marchande.
Donc, bien sûr, aujourd'hui, dans ce système, malheureusement, c'est une affaire marchande. Bien sûr que ça ne devrait pas être une marchandise comme une autre. Tout le monde devrait avoir accès à la culture, et nous, on est les premiers à défendre la culture. D'ailleurs, je vous invite à notre fête. Vous verrez qu'il y a une grande place pour la culture, pour les arts, pour la science. Et je crois que les communistes ont toujours défendu la culture... mais pas une culture élitiste, justement, une culture pour tout le monde.
Et justement, pour rebondir sur la question de la culture européenne, pour vous, est-ce qu'il existe une culture européenne ou est-ce que c'est un fantasme, il n'y a que des cultures nationales?
Vous savez, l'Europe, elle s'est constituée avec différents peuples venus de partout, pas simplement d'Europe, mais d'Afrique du Nord. Et la culture, elle est aujourd'hui... ben tant mieux qu'il y ait différentes cultures, c'est une richesse. Tant mieux que les cultures, elles se brassent, qu'on découvre aujourd'hui à l'heure d'Internet, avec les moyens de transport modernes, etc. Eh ben, on a beaucoup plus accès aux cultures dans le monde. Ben, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose.
Donc on va revenir sur la question de l'IVG, justement avec la loi espagnole. Donc, pensez-vous pas que c'est un problème européen, l'IVG?
Bah oui, c'est un problème, c'est vrai, pas qu'européen, dans le monde entier, mais là au moins, là justement, on voit que cette Europe qu'ils ont fait, qui a réussi, enfin, qui réussissent plus ou moins à une union pour les besoins capitalistes, et bien pour les peuples, ils n'ont même pas été fichus d'unifier un petit peu les droits, et notamment les droits des femmes, dans toute l'Europe. Et quand vous voyez qu'il y a encore des pays qui interdisent l'avortement, comme l'Irlande... la Pologne, et puis peut-être demain l'Espagne, parce que là aussi il y a un risque, et bien ça montre que cette Europe-là, même cette Europe-là un peu sociale, ils l'ont pas faite. Comme d'ailleurs, on peut dire pour toutes les revendications aussi des travailleurs, hein. Un SMIC européen au 21e siècle, et un SMIC qui permette de vivre dignement, c'est quand même pas quelque chose d'inaccessible. Ben même ça, cette Europe, elle joue la concurrence entre les travailleurs. Et aujourd'hui, vous avez des travailleurs qui gagnent des SMIC à 200 €, d'autres à 1 000 €. Tout ça, c'est insuffisant. Il faut un SMIC européen au plus haut pour permettre de vivre dignement.
Donc, ouais, la prostitution. Donc, en Suède, en 99, ils ont fait un projet de loi pour abolir la prostitution. Donc, en France, on est 14 ans après, justement, proposer une loi pour l'abolition. Doit-on pas abolir la prostitution en Europe ?
Alors, c'est sûr que abolir la prostitution comme ça, je sais pas.
Si
une loi, il suffirait, parce que vous savez, la prostitution, quand même, elle découle en grande partie, sauf la prostitution peut-être de luxe, mais elle découle en grande partie de la misère, hein, quand vous voyez qu'il y a beaucoup de familles qui n'ont pas d'autre choix aujourd'hui.
Au niveau européen, pour qu'il n'y ait pas...
Bah, il faudrait déjà des conditions de travail décentes pour tout le monde, des conditions de vie, et ça c'est quand même faisable, je le dis encore, au 21e siècle, c'est quand même pas utopique. Et bien sûr que la prostitution, il faut qu'elle disparaisse, il faudrait qu'elle disparaisse de ce monde, mais ça, on pourra faire une loi, je pense que ça n'empêchera pas qu'il y en aura de toute façon tant que la misère existera, et malheureusement, c'est sûr que c'est un... C'est une plaie sociale très difficile pour à commencer par les femmes elles-mêmes, quoi.
Donc vous ne croyez pas l'efficacité d'une loi interdisant la prostitution ?
Je ne crois pas vraiment à l'efficacité tant qu'il y aura la misère, une telle misère et une misère qui s'accroît, parce qu'aujourd'hui on nous dit qu'on vit au-dessus de nos moyens, Valls nous l'a répété, hein. C'est la même chose qu'on dit à tous les travailleurs en Europe et même au-delà. Les Grecs, on a dit qu'ils vivaient au-dessus de leurs moyens, qu'ils avaient trop dépensé. Voilà, c'est leur faute maintenant s'ils sont dans la misère. Mais on ne vit pas au-dessus de notre moyen quand on a un petit salaire qui suffit. Et puis même quand on a un salaire décent, on ne vit pas dans un château. Je ne vois pas vraiment. On culpabilise aujourd'hui la classe ouvrière Et non, il faut vraiment qu'on a le droit à une vie digne aujourd'hui. Je le dis encore une fois, au XXIe siècle, c'est quand même pas... Et puis même se débarrasser du capitalisme, ça serait à l'ordre du jour, parce que je pense qu'avec le capitalisme, on n'y arrivera jamais. Il y aura toujours la misère et il a tendance, de toute façon, quoi qu'on fasse, à nous reprendre tout ce qu'on a obtenu. Vous le voyez, hein, aujourd'hui, tous nos acquis, ils sont en train de revenir dessus en nous disant qu'on est presque des privilégiés. Bon, voilà...
Alors on en parlait tout à l'heure, bon nombre d'économistes de gauche considèrent que l'euro a détruit la souveraineté populaire et qu'il serait grand temps d'en sortir en attendant une authentique construction politique. Mais remettre en cause l'Union monétaire européenne, c'est un peu au discours, qui assure notamment l'hégémonie des marchés de capitaux sur les politiques économiques européennes, et on est aussitôt assimilé au FN. Sortir l'euro pour restaurer la souveraineté populaire, et on est accusé de repli nationaliste. Pourtant, la souveraineté du peuple, c'est l'autre nom de la démocratie, c'est la capacité des peuples à maîtriser leur destin. Et pour citer Frédéric Lordon, l'économiste de gauche, qui dit « Que le peuple souverain puisse décider et réviser à sa guise, c'est ce que les puissances qui dominent la construction européenne ne veulent à aucun prix. Il ferait beau voir que le souverain décide contre les intérêts du capital. » Donc l'euro, c'est le meilleur allié du capital, en fin de compte.
Oui, mais comme le franc. Le franc, il y avait le franc, et puis il y avait les capitalistes, et puis il y a le dollar, et puis il est tout seul, le dollar, et il appartient pas à la zone euro, et le dollar, il est soumis aux intérêts capitalistes américains aussi. Et puis la livre qui a... la Grande-Bretagne qui a voulu... qui a pas voulu participer à l'euro, ben vous savez, la situation des travailleurs en Grande-Bretagne, elle n'est pas mieux que la situation des travailleurs en Allemagne ou en France. Hein. Donc là, encore une fois, c'est comme les traités. Pour nous... bien sûr que cet euro, il a été fait pour cette Europe capitaliste, mais c'est quand même pas lui non plus le responsable aujourd'hui des problèmes. Bon, alors bien sûr qu'ils ont profité peut-être au passage de l'euro, les prix ont été un peu augmentés, mais depuis, vous savez, c'est le marché capitaliste lui-même qui régule les prix. Hein. Bon, alors cet euro, là, beaucoup s'en plaignent parce qu'on a du mal à vivre avec, mais en réalité, c'est parce que les salaires, ils n'ont jamais été augmentés. Depuis, ils ne sont pas augmentés, ils ne suivent pas l'inflation. Alors bien sûr, tout a augmenté, sauf les salaires. En plus, il y a une spéculation, une envolée des prix sur l'immobilier avec des loyers très chers. Et c'est là qu'est le problème. Encore une fois, c'est euro ou pas, il faudra se battre pour défendre nos salaires, pour exiger que notre pouvoir d'achat soit maintenu, qu'il soit indexé sur les prix.
Donc pour vous, l'euro est une fausse excuse. Mettre sur le dos de l'euro, c'est une fausse excuse.
Oui, c'est de l'enfumage. C'est tous ces hommes politiques qui nous disent que c'est la faute des traités, que c'est la faute des institutions, que c'est la faute de l'euro, à commencer par le Front National. Eh bien, moi, je dis qu'ils nous mentent. C'est un mensonge grossier. Tout ça, c'est pour cacher qui sont, encore une fois, les véritables responsables de la, de la crise. Et vous savez, c'est, cette grande bourgeoisie, on ne nous en parle jamais, puisque j'ai une heure là pour discuter, c'est bien, je vais pouvoir en parler. Mais on ne nous en parle jamais de qui sont ces grandes familles bourgeoises, comme en France, comme les Peugeot, les Bettencourt, les Dassault, les Bolloré, j'en passe, et des meilleurs, qui, que même un homme politique comme le pauvre Sarkozy et ou Lagardère, qui ne pouvait même pas se payer un yacht, il a été obligé de leur emprunter pour aller se balader à Bolloré. Bon, c'est, cette grande bourgeoisie, on ne nous en parle jamais. On ne la voit jamais à la télé. Elle est très discrète. Elle a du personnel politique pour faire son sale boulot. Et ben nous, justement, on se sert des élections pour dénoncer qui sont les vrais responsables de la crise, qui sont les vrais responsables de notre malheur à nous, les travailleurs. Et on est bien les seuls, je crois, à en parler, parce que bon, c'est plus ou moins abstrait des fois chez à gauche, mais c'est tout, ça va pas plus loin. Mais vous savez, Bettencourt ou je veux dire Lagardère, quand ils ont envie de rencontrer les capitalistes allemands, de faire des accords, bon, ils se fichent un peu de ces traités et ils en parlent même pas aux hommes politiques. Si, ils s'adressent à eux pour leur dire bon ben voilà, il nous faut ça, il faut que vous attaquiez les droits sociaux, puis alors l'argent de l'État, ben maintenant il faut que vous le mettiez à la disposition de nos caisses, hein, parce qu'on le voit de plus en plus, les caisses publiques, elles sont à leur disposition. Et puis on fait la poche dans les services publics, on réduit les services publics, on ferme des hôpitaux, on bloque le salaire des fonctionnaires, voilà, tout ça pour dégager de l'argent public et pour donner, continuer à donner de l'argent. Mais la monnaie elle-même, elle n'est qu'un instrument. Elle est un instrument pour fixer les échanges dans un marché capitaliste. Donc, si le marché capitaliste, il est ce qu'il est, vous pouvez appeler euro, dollar, ce que vous voulez, ça sera la même chose. Le dollar, il est bien souverain, ça n'empêche pas la grande misère des classes populaires aussi aux États-Unis. On a vu dans quel état ils ont mis certaines villes comme Détroit, où il y a une misère abominable, où les gens ils ont été expulsés. La livre anglaise, c'est la même chose, il y a une souveraineté nationale. Et on peut aussi trouver une Europe, une monnaie qui correspondrait peut-être mieux, je sais pas à quoi, mais là je vois pas trop. En tout cas, tant que l'Europe est capitaliste, les échanges sont fixés par une grande bourgeoisie qui décide que c'est elle qui a le pouvoir et que c'est elle qui fait la pluie et le beau temps et que c'est elle qui mérite d'être riche et en affamant les peuples, eh ben on continuera à avoir ce résultat. Donc nous, on est justement pour que les travailleurs se battent, qu'ils imposent déjà des moyens de la survie, notre propre survie. Parce que si ça continue, on va vraiment vers une grande misère généralisée. Hein. Ça va à grande vitesse, là, quand même, ces dernières années avec la crise. Et puis, moins on se défend et plus il continue. Donc
vous êtes favorable à un fédéralisme européen socialiste. C'est ce que vous dites, les États-Unis socialistes d'Europe.
Les États-Unis socialistes d'Europe, ça serait un grand progrès déjà, c'est sûr. Comment on arrive avec une unification des droits sociaux, avec des droits des travailleurs, des droits des femmes, avec une libre circulation, parce que c'est aussi l'Europe des barbelés aujourd'hui. Hein, l'Europe, elle a fermé, elle a plus de frontières peut-être au niveau d'un pays à l'intérieur de l'Europe, mais enfin, elle a fermé ses frontières, y compris ses frontières qui étaient très ouvertes avec la Méditerranée, avec les peuples d'Afrique. Et ben aujourd'hui, c'est fini, on peut plus venir dans cette Europe des barbelés. Hein.
Quelles seraient ces conditions de réalisation justement de cette Europe fédérale? Est-ce qu'il y aura un pouvoir législatif européen bicaméral, les prérogatives, est-ce qu'il y aura un suffrage universel? Parce que c'est bien beau de dire pour le fédéralisme européen, mais comment on met en réalisation ces...
Bah oui, il faudra déjà, c'est sûr qu'il faudra une révolution. Une révolution à tous les niveaux, hein, des institutions. Il faudra que les travailleurs eux-mêmes, c'est les travailleurs eux-mêmes qui décideront de ce qu'ils feront de cette Europe, qui décideront partout, dans les quartiers, dans les entreprises, qui contrôleront leurs élus déjà dans un premier temps, parce que nous, on est pour des élus révocables à tout moment, contrôlables. Hein, ils tiennent pas leurs engagements...
Vous êtes donc pour un mandat impératif.
Voilà, on est pour surtout que les élus soient contrôlés par la population et puis révocables à tout moment. Et puis qu'ils aient aussi les mêmes salaires, le salaire moyen d'un ouvrier aujourd'hui en France, hein, d'un ouvrier qualifié, voilà, mensuel. Vous verrez qu'il se battrait pas pour avoir les postes à ce niveau-là. Et ça, c'est ça la démocratie, c'est que on décide ensemble de ce qui est bon pour les besoins de la société, pas pour les besoins d'une minorité comme aujourd'hui, qui impose finalement sa dictature au monde entier. et les travailleurs décideraient si il faut produire plus de telles marchandises, plus d'hôpitaux pour tel pays, plus de pompes à eau pour ailleurs, des écoles, de créer des emplois dans les services publics où il en manque partout. Bon voilà, ça c'est une société qui a inventé, c'est évident, mais nous en tout cas ça serait un grand progrès si déjà il y avait les États-Unis socialistes d'Europe. Vous savez, l'Europe c'est petit. Quand vous allez de Paris à Moscou, vous mettez 3 heures en avion et vous avez traversé je ne sais pas combien de pays. Les États-Unis, c'est un seul pays. Vous allez de New York à San Francisco, vous mettez 6 heures et vous avez traversé qu'un seul pays. Alors, déjà, il n'y aurait plus toutes ces frontières et il y aurait une communauté des peuples, bien sûr, libres de leur choix, dans le respect de chacun. Et ben, ça serait déjà un très grand progrès, c'est évident.
Vous êtes favorable pour l'Europe ?
Nous, on est pour l'Europe des travailleurs, c'est évident.
Justement, vous parliez de la libre circulation, justement de la non-libre circulation des travailleurs en Europe. Que pensez-vous de la question Rome et de la mise en question de leur liberté de circulation à l'intérieur de l'Europe ?
Ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux parce que les Roms, ils sont des citoyens européens. Donc, il n'y a aucune raison que partout, vous savez, il y a, je sais pas, la population en Rome, elle est pas très nombreuse dans toute l'Europe. Hein. Ça serait pas quand même un grand problème pour une Europe si riche de trouver une solution à leur errance, si on peut dire, de les accueillir favorablement dans les pays, de les intégrer parce qu'ils cherchent comme tous les peuples, hein, ils veulent s'installer, avoir du travail, nourrir leur famille, envoyer leurs enfants à l'école, voilà. Et contrairement à ce qu'a dit Valls, des propos scandaleux qui valent largement ceux de Sarkozy, les peuples roms, ce ne sont pas nos ennemis, c'est pas eux les responsables de la crise, ils sont des boucs émissaires. Et quand je vois ce que dit le Front National ou la droite et puis un Valls, je trouve ça vraiment scandaleux, quoi. Que dans une Europe aussi riche, aujourd'hui, on ne puisse pas régler le problème. Ils sont 17 000 en France, les Roms. Alors voyez, si vraiment ils voulaient se donner les moyens de leur donner leur chance et de les intégrer, comme beaucoup, parce qu'on est tous... regardez un peu autour de nous, fils ou petit-fils d'immigrés, il faut qu'ils aient aussi cette chance, et là on va vraiment à l'encontre de tout ce qu'il dit sur les Roms.
Hein. Alors justement, on va parler un peu de sport. Et justement, depuis 1995, il y a eu l'arrêt Bosman, avec la libre circulation des joueurs dans l'Europe. Donc êtes-vous contre ou contre ce système-là ?
La libre circulation, excusez-moi, parce que alors je ne suis pas une férue en sport, je vous le dis tout de suite.
La libre circulation des joueurs dans l'Europe. C'est-à-dire qu'en France, avant, il y avait 3 étrangers par équipe. Maintenant, il y en a 10 ou 12. Donc, on favorise
En équipe de...
En équipe locale, pas nationale.
En foot, vous parlez de foot. Bah, écoutez, alors le foot, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des joueurs très bien payés qui sont finalement... Bon, eux aussi, des instruments de la publicité, c'est une affaire de gros sous, c'est des salaires mirobolants qui choquent beaucoup de monde, bien sûr.
Justement, aussi, en Europe, il y a des agents européens qui recrutent des Africains, qui leur disent qu'ils leur promettent monde des merveilles, et justement, qui se retrouvent à la rue, qui sont sans papier et tout. Est-ce qu'on peut combattre ça, justement, au niveau de l'Europe ?
Ça, c'est scandaleux, c'est évident, mais là aussi, ça montre que c'est une affaire de gros sous, quoi. Parce que ce sport rapporte, parce que c'est devenu un véritable spectacle. On se balance les joueurs à coups de millions. C'est à l'image de cette société. Hein, c'est voilà. Alors vous voyez aussi. Alors en plus là-dessus, il y a le nationalisme avec chacun son drapeau quand ça les arrange. Alors que les équipes maintenant, elles sont aussi mondialisées, si j'ai bien compris. Hein, voilà, il y a toutes les couleurs des peuples. Mais voilà. Donc ça, c'est ce sport aussi qu'on dénonce. C'est le sport pourri par le fric. Hein. Je pense qu'on n'est pas les seuls à le dénoncer. Hein.
Alors justement, il y a beaucoup d'affaires de dopage dans le sport européen. En France, c'est le pays où on contrôle le plus les sportifs. Justement, il ne faut pas appliquer ça à tous les pays d'Europe.
Là aussi,
en Espagne, il y a eu beaucoup d'affaires de dopage, des scandales avec l'affaire Puerto, beaucoup de scandales. Et en France, c'est le pays où il y a le plus de contrôle. Donc il faudrait un peu régir ça au niveau européen. Quel est votre point de vue là-dessus, quoi ?
Oui, bien sûr, qu'il faut des contrôles, sans doute, mais je veux dire que tant que là aussi le sport il est soumis à la loi du fric et que ça rapporte, et ben voilà, vous aurez de la du sport spectacle, et puis à côté de ça, ben vous avez un manque d'équipement sportif dans tous les quartiers, des jeunes qui peuvent pas s'inscrire parce que ça coûte trop cher pour les familles pour faire du sport. Alors là aussi, c'est du sport pour tous, c'est comme la culture, et puis qu'on arrête, c'est finalement, vous savez, c'est un peu comme sous la Rome antique, hein, c'est du sport et du pain et des jeux. Et puis voilà, donc de plus en plus, ça devient une affaire de gros sous. Alors là aussi, je pense que vous pourrez contrôler le dopage, mais tant que ça rapporte, ça continuera en sous-main ou. On nous en parle depuis longtemps, mais enfin, il y a toujours des dopés. Hein. J'ai remarqué que.
Alors, justement, Michel Platini veut faire un fair play financier, justement, pour que les grands clubs, tous les clubs puissent jouer les mêmes compétitions au même niveau. Quel est votre point de vue là-dessus?
Alors, écoutez, je ne sais pas ce qu'il veut faire Michel Platini, mais moi, par contre, ce qui m'a scandalisé, c'est ce que j'ai entendu de sa part au sujet des Jeux Olympiques, c'est les Jeux Olympiques,
non, du mondial de foot,
vous voyez comme je suis nul en sport, du mondial de foot au Brésil, où il a demandé finalement à la population brésilienne d'arrêter de manifester, de revendiquer, de troubler ces Jeux, n'est-ce pas, parce que ça a troublé en fait le business et qu'il fallait qu'il se taise. Alors Platini, vraiment, bon, beaucoup ont été scandalisés par ses propos à juste titre. Hein.
Donc on va parler de la pollution de la prostitution. Alors que préconisez-vous justement pour encadrer les prostituées?
Non mais, encadrer, je ne sais pas si c'est le bon, mais s'il faudrait plus de moyens pour aider aussi les associations, des structures d'accueil, beaucoup plus d'aide pour leur trouver du travail aussi, des logements, les éloigner souvent des réseaux mafieux, etc. Donc je crois que les associations, elles dénoncent tout ça, hein. elles ont beaucoup de peine et les moyens manquent, quoi. Donc c'est évident qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine.
Donc alors êtes-vous favorable à une armée européenne?
Alors je suis pas favorable à une armée européenne, mais là... Vous voyez, l'armée française, à quoi elle sert? Elle sert même pas à défendre les frontières, parce qu'on nous dit qu'il faut une armée pour nous défendre s'il y a des invasions. Elle est partout dans le monde, et elle est à une moindre échelle, mais comme l'armée américaine. Et pour défendre les intérêts capitalistes, en Afrique ou ailleurs, on envoie nos armées, on s'érige, enfin le gouvernement français s'érige en grand justicier dans le monde entier, comme le font les Américains. Le droit d'intervenir quand ils veulent, où ils veulent. Alors non, pas du tout. On défend pas cette armée. Abat l'armée française, et puis surtout l'armée française hors de tous les pays là où elle est, en Afrique ou ailleurs. Et puis ne pas oublier aussi que derrière l'armée française, eh ben il y a des groupes comme Dassault qui s'en mettent plein les poches. Hein, surtout avec, c'est un marché énorme, le marché de l'armement. Je crois le premier poste ou le deuxième poste du budget français. Alors ce budget-là, ben, on pourrait le mettre dans l'éducation nationale, dans la santé, dans les transports, un peu partout, et pour aider aussi les femmes prostituées.
Alors quoi, pensez-vous qu'il y a une absence de la politique européenne au niveau mondial?
On n'entend pas la voix de l'Europe, au niveau mondial.
On entend plus la voix française que la voix européenne, quoi.
Oui, ça dépend, oui, la voix de qui, hein, parce que si c'est toujours la voix des gouvernants qui sont finalement...
En fait, la France, elle serait un peu le porte-parole de l'Europe, quoi.
Oui, bon, bah, écoutez, la voix de Hollande, de Valls ou de Sarkozy avant lui ou de Le Pen demain, non, franchement, merci, des porte-paroles comme ça... Pour les peuples, on n'en a pas besoin. Et ce qu'on n'entend pas assez, ben justement, c'est la voix des travailleurs. Et c'est la voix de la colère du monde du travail, la colère des classes populaires, la colère des chômeurs, la colère des retraités partout dans Europe et puis au-delà de l'Europe. Et c'est ça qu'il faut que ça s'exprime. Il faut que on arrête de nous diviser. Il faut que on soit conscient qu'on a les mêmes intérêts à défendre, qu'on doit s'unir, qu'on ne doit pas écouter tous ces politiciens qui finalement cherchent à nous diviser. On nous divise entre fonctionnaires du public, entre salariés du privé, entre travailleurs immigrés, entre travailleurs français. Mais non, il faut vraiment qu'on ait conscience qu'on a tous les mêmes intérêts à défendre et qu'on doit s'unir contre ces gouvernements qui sont tous au service de cette grande bourgeoisie, contre tous ces capitalistes qui nous font les poches. Et s'il y a des étrangers sur cette planète, vous savez, c'est eux. Voilà.
Alors, on a bien compris que Lutte ouvrière était pro-européen.
Alors, pas pour cette Europe des capitalistes. Bien sûr, on la dénonce, comme beaucoup. Hein. On sait que toutes ces institutions, elles sont là pour défendre un ordre de la bourgeoisie. Voilà, on le dénonce. Mais on n'est pas non plus pour un repli nationaliste, pour une fermeture des frontières. Et on ne va pas... ça, c'est de l'enfumage. C'est des mensonges grossiers. Et on ne va pas dire aux travailleurs, il faut qu'on revienne au franc. Il faut qu'on ferme nos frontières et que ça ira mieux. Parce que ce n'est pas vrai. Parce que ça risque même d'être pire. Vous savez, le pays qui a le plus avancé dans le protectionnisme, ça a été l'Allemagne nazie. On a vu... parce que si demain... On empêche, c'est le système lui-même, parce que si demain vous empêchez les importations des autres pays, eux ils feront la même chose. Or aujourd'hui les entreprises elles sont mondialisées, elles travaillent pour le monde entier. Regardez Alstom qui produit des turbines pour la Chine, pour partout ailleurs. Et si demain vous empêchez les produits chinois, la Chine elle fermera aussi ses frontières. Donc là on en arrivera vraiment. Et puis les prix augmenteront parce que forcément on sera sous la coupe de nos propres capitalistes là bien français qui eux non plus de toute façon ont pas envie d'une fermeture des frontières aujourd'hui parce que eux ils ont tout intérêt à ce que leurs capitaux circulent dans le monde entier. Alors il faut que la lutte des travailleurs. Eh ben, c'est ça qu'il faut vraiment étendre et il faut que ces idées-là, elles circulent dans le monde entier. Parce que tout ce que les travailleurs ils ont obtenu, ça a été par leur lutte. Et regardez, aujourd'hui, on voit en Chine, on voit même au Bangladesh et tout, partout, le capitalisme, il a exporté peut-être son système, mais il a exporté aussi la lutte des travailleurs. Ben, ça, c'est une bonne chose. Et partout, les travailleurs se révoltent. Il faut qu'on ait des objectifs, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on défende des objectifs pour l'avenir. Et c'est vrai que nous, on n'aura pas la même position, ni pour ceux qui défendent cette Europe capitaliste et qui nous disent qu'elle est faite pour le bien des peuples, une Europe de la paix, ça c'est du bidon aussi. Mais on ne mettra pas aussi nos voix avec tous ceux qui défendent le repli nationaliste et la fermeture des frontières ou la sortie de l'euro.
Alors justement, vous parlez des frontières. Pour vous, quelles sont les frontières de l'Europe ? Est-ce que la Turquie a vocation à rentrer dans l'Europe ? Est-ce que l'Ukraine a vocation à rentrer dans l'Europe ?
Si les peuples le décidaient, bien sûr, l'Europe, vous savez, on a exclu déjà de l'Europe, et puis il y a même des politiciens maintenant qui proposent une Europe à 5 ou 6. Hein. Alors que les pays riches entre eux, voilà, c'est encore mieux. Mais alors qu'ils ont eu besoin pendant toute une période des pays pauvres de l'Europe, parce que là aussi ça leur a servi pour leurs intérêts. Mais l'Europe, elle va de la France jusqu'à la Russie, en passant par l'Ukraine, et y compris en passant par la Turquie. Et si les peuples décidaient de s'unir, je vois pas pourquoi on exclut ces peuples.
Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne campagne. Je sais que vous avez encore un mois assez compliqué.
Les meetings ?
Vous avez un meeting.
Voilà. Le 16 mai à Villeurbanne et à Seyssin le 22 mai.
Voilà, avec Nathalie Artaud à Grenoble qui viendra à Seyssin. Et puis pour Lyon, eh ben, c'est dans pas longtemps. C'est le vendredi 16 mai à Villeurbanne à 20h au centre culturel. Voilà.
Et autrement, est-ce qu'il y a un site où les gens peuvent voir votre profession de foi, la liste et les propositions de Lutte ouvrière ?
Oui, alors notre site national, lutteouvrière.org, et vous avez aussi toutes les actualités en région.
Et bon, on vous remercie beaucoup.
Merci.